Chapitre 1. La pureté rituelle. 1. Le grand lavage, sans goussette. Grand, A. Qui doit procéder au grand lavage.
Avant de pouvoir faire la prière, douli, le musulman doit s'être purifié de toute souillure dite majeure, sobe boumag. Après des rapports sexuels, après un rêve, mouillé, après les menstrues, règles, après les lochis, perte de sang après accouchement, lorsqu'un non-musulman se convertit à l'islam, etc. Aucune prière n'est considérée comme valable, si la personne qui l'effectue est passée par une des circonstances ci-dessus sans s'en être purifiée, sans goussette. Par exemple, un musulman qui n'avait pas l'habitude de prier, ni de se laver, comme l'exige sa religion, et qui décide de commencer, ou de recommencer, à prier, ne peut pas procéder à des ablutions simples, et se mettre à faire la prière, comme si de rien n'était. Il doit d'abord se purifier, par un grand lavage, puis faire ses ablutions normales, pour pouvoir être en condition de faire la prière.
Grand B. Comment faire le grand lavage?
Le principe est de laver tout son corps, en se frottant des cheveux à la plante des pieds avec de l'eau pure, en passant par tous les coins et recoins. Une eau pure au sens islamique veut dire une eau sans saveur, goût, sans odeur, sans couleur. À moins qu'une de ses caractéristiques, ou toutes, ne soit intrinsèquement liée à l'eau qu'on veut utiliser. Ex, l'eau de la mer, ou une eau boueuse, marécage, ces eaux peuvent servir au lavage et à l'ablution. Souvent, les femmes, pour ne pas gâter leur coiffure, lavent tout leur corps en excluant la tête, ou les cheveux, ou le cuir chevelu. La prière de ces femmes, et des hommes qui ont le même comportement, n'est pas valable. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout partie non lavée sera purifiée par le feu. Malheur aux talons, non lavés intégralement, qu'ils redoutent le feu de l'enfer. » C'est pourquoi le vernis à ongles, émail, empêche d'avoir des ablutions correctes en ce que l'eau ne peut atteindre une partie des doigts, les ongles notamment. Les mèches empêchent également l'eau de toucher les cheveux et posent ainsi le même problème que le vernis. Par conséquent, une femme qui porte des mèches ou qui met du vernis sur ses ongles court un risque dont on peut se demander si le plaisir ou le bénéfice qu'elle en attend en vaut la peine.
Procédure.
Nourrir l'intention de procéder au grand lavage. En wolof, cela donne yalla mangifas yene sangouset giryo ketisobe bumagbi nexisamayaram girdaganal diouli faratasiman. Seigneur, j'ai l'intention de me purifier de la souillure majeure qui est sur moi afin que je puisse être en condition d'accomplir les prières obligatoires. À partir de là, deux possibilités. Une façon très simple, grande et petite ablution séparées. On lave les parties du corps souillées, kobeku, les parties génitales en particulier, ainsi que toute autre partie concernée. On se lave de A à Z, de haut en bas, en se frottant tout le corps sans aucun ordre prédéterminé. Éveillé à tout mouiller, en se frottant, à ce moment, l'islam vous considère comme étant purifié. Mais pour pouvoir prier, il faudra faire la petite ablution. Grande et petite ablution intégrée. Laver toutes les parties du corps souillé, kobeku. Procéder à la petite ablution, c'est-à-dire lever ses mains trois fois, sunna. Se nettoyer la bouche trois fois, sunna. Se moucher trois fois, sunna. Se laver le visage trois fois, farata. Laver les avant-bras droit puis gauche, en prolongeant le lavage aux mains, à nouveau, trois fois, farata. Se laver la tête à fond trois fois, en nettoyant à fond les cheveux, ainsi que le cuir chevelu. Ce qui n'est possible que si on n'a pas mis des mèches.
Remarque.
Ce lavage de la tête n'aurait pas été nécessaire si ce n'était le cadre du grand lavage. En ablutions simples ordinaires, il faut se mouiller les mains sans retenir l'eau, et les passer sur les cheveux en aller et retour, une fois simplement. L'aller est un acte farata tandis que le retour est un acte sunna. On appelle cet aller-retour massasabop, par opposition à rakas, en wolof. Se nettoyer les oreilles, massa, sunna. Lever ses pieds droits, puis gauche jusqu'aux chevilles incluses, farata. A. Le lavage des différents membres doit se faire en frottant, rag. B. Les ablutions doivent être faites d'un trait, sans interruption. On considère qu'il y a interruption des ablutions si les membres lavés ou un des membres lavés s'asséchait au cours de la suspension, par exemple répondre au téléphone, aller ouvrir la porte à quelqu'un, etc., alors qu'on est en pleine ablution. Une fois la petite ablution terminée, on lave à grande eau tout son corps. On lave le côté droit de la tête aux pieds, sans savon, puis le côté gauche, puis le dos jusqu'en bas, et enfin la poitrine jusqu'aux pieds. Cela en évitant de toucher son sexe avec la paume de sa main, pour l'homme, et d'introduire les doigts dans son vagin pour la femme. En effet, ses parties génitales avaient été lavées lors de l'étape dite quebec ou au début du lavage. Après avoir fait ses ablutions, on prononce les paroles d'attestation de la foi musulmane à savoir
« Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu »
J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé.
Remarque.
Nous avions souligné que tous les coins et recoins devaient être mouillés et nettoyés bien entendu, il faut donc nettoyer aussi au cours du lavage, l'anus. Pour ce faire, s'accroupir, comme si on allait au sol, et laver de manière à atteindre les bourrelets. Le nombril doit être nettoyé également à fond. Lorsqu'on a terminé, on est prêt pour la prière. Il n'est pas besoin de refaire la petite ablution pour faire la prière.
Attention! Qu'est-ce qui peut gâter les ablutions?
Uriner, aller au sol, sortir du vent, péter, toucher son sexe avec la paume de sa main, pour un homme, introduire son doigt dans son vagin, pour une femme, avoir un doute sur la validité de ses ablutions, etc. Ainsi, si par exemple au cours du lavage, un homme a touché son sexe avec la paume de sa main, le grand lavage n'est pas gâté, mais il faut refaire la petite ablution avant de pouvoir prier. De même si on se met à douter sur la validité de ces ablutions ou non, il faut obligatoirement les refaire, à moins qu'on soit atteint d'un scrupule maladif qui vous fait douter en permanence. À ce moment-là, c'est l'influence de Satan, et vous devez prier sans avoir à renouveler vos ablutions. Une femme qui a effectué le grand lavage après des rapports sexuels, et qui, bien après, voit s'écouler d'elle du sperme, ne refait pas son grand lavage. Elle se nettoie tout simplement et procède à des ablutions simples si elle veut prier. Bien entendu, elle se débarrassera de son dessous ou de ses habits en cas de souillure par ses pertes.
1-2. La petite ablution.
Si le problème de souillure majeure ne se pose pas et qu'on soit devant une situation qui nécessite une simple ablution, la procédure est la suivante. L'intention de faire des ablutions en vue de la prière, fasiéné, diap, girdiouli, diouli farata, se laver 3 fois les mains, se laver la bouche 3 fois en frottant les dents avec l'index droit, se moucher 3 fois, lever son visage 3 fois, du haut du front jusqu'au menton et à la frontière des oreilles, laver 3 fois, les avant-bras, des ongles au coude, et non pas des poignets au coude. Laver l'extérieur de l'avant-bras d'abord, puis l'intérieur, passer de l'eau entre les doigts, et nettoyer ou entrecroiser ses doigts. Faire le massage de la tête, attention, il ne s'agit pas de laver la tête à flot d'eau. Le massage de la tête signifie, mouiller ses mains, sans retenir l'eau, et passer ses mains mouillées sur les cheveux dans un mouvement d'aller-retour. Faire le massage des oreilles une fois, là encore, mouiller ses deux mains, laisser tomber l'eau et nettoyer ses deux oreilles à l'aide de l'index et du pouce, notamment, le pouce frotte l'extérieur du lobe, tandis que l'index nettoie l'intérieur. Lever ses pieds, droit puis gauche, talons compris. Utilisez de préférence la main gauche pour le lavage des pieds.
Remarque.
1. On commence toujours par le membre droit, la main droite, le pied droit, etc. 2. On commence également toujours par le côté droit du membre concerné, par exemple le côté droit du pied à laver, vers la gauche. 3. En lavant, frottant, on ne se contente pas de mouiller les membres concernés par le lavage. 4. On fait ses ablutions d'un trait, sans interruption. Après avoir fait ses ablutions, on prononce les paroles d'attestation de la foi musulmane à savoir
Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ash'hadu anna muhammadan عبده ورسوله.
J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur, et son envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne, croyante, qui meurt en prononçant ces paroles, ira inshallah au paradis. Il est également dit que tout croyant qui fait usage régulièrement du cure-dent, sotiu, dira facilement cette attestation. Par contre, les théologiens disent que tout croyant, qui fait régulièrement usage de tabac, s'il ne se repentait pas à temps, oubliera cette attestation dans son agonie. Extrait du livre « Les enseignements de l'islam » par Shekul, Hadith, Mavlana Zakaria, édité par le Centre islamique de l'île de la Réunion, France, 31 rue Marius et Harry Leblon Saint-Pierre, Réunion, page 12 de la première partie intitulée « L'importance de la prière ». Autant les théologiens attribuent 70 vertus au cure-dent, autant ils attribuent 70 méfaits au tabac. Certains hommes de Dieu disent même que toute personne dont l'usage du tabac était l'habitude, une fois enterrée avec le corps dirigé vers l'est, la Kaaba, verra Inch'Allah sa tête retournée vers la direction opposée par les anges, et cela avant même que les gens qui l'enterraient ne se soient éloignés de 7 pas de la tombe. 5. Si on n'a pas beaucoup d'eau, on peut faire les lavages deux fois ou alors une fois en veillant, toutefois à bien toucher, nettoyer, mouiller, toutes les parties concernées. Si on n'a pas d'eau du tout et que l'heure de prier risque de passer, on procède au tayammum, timan ou lof, c'est-à-dire à la purification par le sable, ou une roche lisse. Ici l'intention est exprimée comme suit, Mangi Fasimene Daganal, Diouli Farata Siman, il est autorisé d'effectuer une prière Nafila avec cette purification après une prière Farata, obligatoire. Cependant, s'il faut refaire une prière obligatoire, il faudrait renouveler le tayammum, tim.
1 2 1 Si vous faire loup.
Dans le cadre des ablutions, il y a deux notions très importantes auxquelles il convient de faire attention et qui sont appelées en wolof, si vous et faire loup. Il est courant de voir un musulman aller dans les toilettes et faire ses besoins, uriner avant de faire ses ablutions. Beaucoup d'entre nous, les hommes en particulier, sans attendre que toutes les gouttes d'urine aient fini de suinter complètement, aussitôt que nous sortons des toilettes, nous procédons aux ablutions. La conséquence est qu'au moment même de faire les ablutions ou des fois, après avoir terminé, cela dépend des personnes, il arrive souvent que des gouttes d'urine qui étaient restées dans le circuit tombent sans, même qu'on s'en aperçoive guettant ainsi les prières qui ont suivi. En même temps le slip, ainsi, souillé, n'est plus valable pour faire une prière. D'après Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passant près de deux tombes, dit, on tourmente les deux morts enterrés ici, mais ce n'est point pour une chose, considérée comme importante, l'un de ne se protégeait pas des taches d'urine, et l'autre colportait des médisances. Par conséquent, lorsqu'on a fini d'uriner, il faut veiller à deux choses. 1. Attendre un peu dans les toilettes, passer les deux doigts, index et pouce, de la main gauche sur le sexe, de la racine au bout en pressant légèrement de manière à éliminer l'urine. Répétez cette opération deux fois, soit trois fois au total, c'est ce qu'on appelle faire loup en wolof. 2. Nettoyer le bout du sexe avec de l'eau. C'est le sivou. L'eau, à ce stade, arrête généralement les suintements des gouttes d'urine. Ce n'est qu'alors qu'on peut procéder aux ablutions en toute sécurité, si on n'a pas le temps d'attendre que les gouttes veuillent bien passer. On peut placer un Kleenex ou un morceau de papier buvard ou même un morceau de tissu dans le slip, aller vaquer à quelques occupations, revenir au bout de 5 minutes. Généralement toutes les gouttes seront tombées, faire loup, sur le morceau évitant ainsi de souiller le slip. On se débarrasse du Kleenex ou autre, on se nettoie avec de l'eau, si vous, et on est prêt pour les ablutions. Chez les femmes, le problème est moins fréquent. En tout état de cause, il lui est recommandé et elle aussi de faire son faire loup.
Comment ?
Lorsqu'elle a fini de se soulager, elle doit se lever, se tenir debout une petite seconde, s'asseoir ou s'accroupir à nouveau, et enfin se nettoyer avec de l'eau.
1 2 2 Le salas, les incontinences.
Quelqu'un qui, indépendamment de sa volonté, voit ses ablutions toujours gâtées, par exemple, quelqu'un qui a des écoulements continus d'urine, une femme qui a des menstrues, règles, permanentes, quelqu'un qui émet du gaz tout le temps, de manière anormale ou inhabituelle. Celui-là, l'islam le considère comme étant dans une situation de force majeure. celui-là peut, et même doit, considérer que ses ablutions ne sont jamais gâtées par ses incontinences, ou mieux la charia lui pardonne, ou, l'exonère, de l'obligation de renouveler ses ablutions. À chaque prière, il lui est tout simplement recommandé de faire de nouvelles ablutions, et ce n'est même pas obligatoire, à moins que les ablutions aient été gâtées par autre chose telle que dormir profondément, toucher son sexe avec la paume de sa main, avoir des pensées excitées, à caractère sensuel, les autres cas classiques, etc. Dans ces cas, il doit obligatoirement reprendre ses ablutions.
1.3. La pureté relative aux habits.
Sur le chapitre de la pureté, il importe d'attirer l'attention du musulman qu'il doit également veiller à la propreté des habits avec lesquels il prie. Quel est le problème? Souvent, on lave les habits en même temps que les draps, ou en même temps que des pyjamas ou des slips. Si par hasard, les draps en question, ou les pyjamas, ou les slips sont souillés de sperme, il faut normalement les laver à part. S'ils sont mélangés aux habits avec lesquels il peut arriver qu'on prie, la charia recommande de les laver de la manière suivante, c'est le fameux caillou. A. Soit. 1. Plonger en même temps tous les habits et draps, donc le linge souillé et le linge non souillé, dans la bassine remplie d'eau sans savon, eau pure. 2. Laisser bien tremper. 3. Essorer le linge un à un, en le transvasant dans une autre bassine, ou toute autre place. 4. Verser l'eau de la première bassine. 5. Rincer cette bassine avec une eau propre. 6. Enfin laver avec du savon dans la nouvelle bassine ou la première, si on remet à nouveau dans cette bassine. D. Soit. Placer tout le linge dans une bassine. Verser l'eau dessus. Laisser bien tremper. Essorer un à un en transvasant. Verser l'eau, rincer la bassine à l'eau propre si on veut la réutiliser. Enfin laver avec du savon. L'idéal bien entendu, qui évite toute complication, est de laver à part le linge souillé, en respectant, néanmoins les règles rappelées ci-dessus, et le linge non souillé à part. En tout état de cause, le principe est, premièrement de rendre, pur, le linge, surtout celui qu'on est susceptible de porter pour prier, avec de l'eau sans savon d'abord. Deuxièmement de ne pas laver, lavage de purification, les habits, ou linge l'un après l'autre, c'est-à-dire plonger un linge, le tremper, l'essorer, puis le transvaser. Faire la même chose avec un deuxième linge en utilisant la même eau, qui a peut-être été souillée par le premier linge, la rendant ainsi non valable pour purifier les autres linges. Ici également, il importe d'approfondir la question avec les docteurs de la loi islamique. Enfin, il arrive d'entendre qu'une femme ne peut pas prier avec les habits qu'elle portait lorsqu'elle avait ses règles. Ceci est évidemment faux, à moins que pour une raison ou une autre, cet habit ou ces habits aient été tachés, et donc souillés, par le sang des menstrues, règles, et non lavés.
1.4. Ablution avec massade et chaussures. Est-ce possible?
Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une pratique autorisée, et qui était courante. Il s'agit de la possibilité de refaire ses ablutions sans pour autant se déchausser, mais en faisant le maza sur ses chaussures, des bottes ou bottillons notamment, et dans ces cas-là, on prie avec ses bottillons. La tentation est grande à notre époque dite « moderne » de faire une interprétation très flexible de cette « facilité » pour en bénéficier et régler certaines « contraintes » que peut poser l'acte d'ablution pour certains. Il faut cependant savoir qu'il y a des règles très précises, 11 notamment, qui conditionnent cette procédure. 6 conditions concernent les bottes, tandis que les 5 autres concernent la personne elle-même.
Petit A. Les conditions relatives aux bottes.
1. Les bottes doivent être en cuir, d'air. 2. Le cuir doit provenir de la peau d'un animal licite, porc, cochon exclu, d'herbe ou l'âbe. 3. Les bottes doivent être cousues, non collées. 4. Elles doivent couvrir les chevilles. 5. Elles doivent permettre de marcher, ni trop serrées, ni trop grandes. 6. Rien ne doit s'intercaler entre la botte et la peau, donc pas de chaussettes.
Petit B. Les conditions relatives à la personne.
1. La personne doit avoir fait au préalable ses ablutions avant d'enfiler les bottes au départ. 2. Ablution avec de l'eau, purification sèche exclue. 3. Les ablutions doivent avoir été faites de façon complète. 4. Tu dois avoir porté les bottes sans intention de se faire voir. 5. Ni intention de commettre un péché.
Observation.
Le massaha doit être lui-même fait selon les règles suivantes. Bonne droite, poser la main droite sur la partie supérieure de la botte. Placer la main gauche sous la botte, faire le massaha en commençant par le bout du pied, ce jusqu'aux chevilles. Botte gauche, on inverse la position des mains, la main droite en dessous et la main gauche au-dessus. Si on oublie de faire le massaha de la partie supérieure des bottes, la prière est gâtée. Si on oublie de faire le massaha de la partie inférieure des bottes et qu'on s'en rappelle après la prière, il est recommandé et non obligatoire de refaire sa prière si l'horaire de la prière n'est pas encore épuisé. Si l'horaire, Mokhtar plus Dororiou, est passé, on ne paye pas cette prière.